Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, Brexit, une histoire sans fin, plan de relance, climat, questions sanitaires, pas prévu à l'agenda, il est fort probable que la question du Brexit s'invite une fois encore au dernier Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement de l'année qui s'ouvre aujourd'hui. Et alors que les négociations n'ont toujours pas abouti, on va en parler avec notre invité, l'historien britannique Robert Holmes, professeur au St John's College de l'Université de Cambridge, spécialiste de la Commune de Paris à laquelle il a consacré plusieurs ouvrages. Dans la lignée de ses travaux sur la relation entre la Grande-Bretagne et l'Europe, il publie un nouveau livre en Grande-Bretagne aux éditions Allen Lane. Ce sera en janvier. On va traduire peut-être cet ouvrage, le titre en tout cas, par ces mots. Cette île souveraine, la Grande-Bretagne, dans et hors de l'Europe. Voilà pour le titre rapidement traduit de votre nouvel ouvrage, Robert Holmes. Vous allez dans ce livre tenter de revenir sur ce moment qu'a été le référendum de 2016, tenter de rassurer aussi ceux qui, comme vous, ont voté Leave il y a 4 ans. Le Brexit, un choix que vous ne regrettez pas, démocratique et raisonnable. Bonjour Robert Holmes.
Bonjour et merci de cette invitation.
Merci à vous d'être avec nous à distance, mais bien là pour échanger sur cette question cruciale qui est celle aussi du destin de la Grande-Bretagne dans ou hors de l'Europe. C'est un choix que vous ne regrettez pas, même au vu de ces interminables négociations qui pourraient déboucher sur un no deal dans quelques jours, lors de la date butoir du 1er janvier.
Oui, exactement. Je pense que nous nous sommes rendus compte que au début de ce procédé, on était un peu naïf. On a pensé qu'un accord serait facilement résolu, que l'amitié entre les pays européens et l'Angleterre serait protégée et que la prospérité des deux côtés serait ce qui compte le plus. Mais j'avoue que je pense que l'Union européenne a adopté une position idéologiquement rigide, qui est très difficile pour un gouvernement britannique d'accepter. Et dans ce cas-là, il est bien possible que nous arrivons à sortir finalement avec au sens d'un accord commercial.
Dans un divorce, c'est souvent un peu la faute des deux parties. Il y a des rigidités qui se mettent en place des deux côtés. Vous voyez celle de Bruxelles, vous ne voyez pas celles qui ont pu advenir du côté de Londres sur ces négociations?
Mais honnêtement, je pense que les gouvernements britanniques ont demandé ou ont cherché une situation qui est plus ou moins normale dans les relations internationales, où l'indépendance des deux côtés sera reconnue, où l'arbitration des disputes serait neutre, où la liberté de législation des deux côtés serait respectée. Il s'est trouvé que l'Union européenne n'est pas prête à accepter une telle relation. Et donc, cette situation ne change pas, je pense que nous serons obligés de sortir sans accord. Et je pense malheureusement, dans ce cas-là, que les disputes et les négociations vont continuer sine die.
Aujourd'hui, on pointe 3 pommes de discorde dans les discussions, la pêche, la concurrence et la gouvernance. Ces 3 questions-là, de ces 3 questions, laquelle vous semble essentielle?
Oh, certainement la gouvernance. Parce que la pêche, on peut facilement trouver un compromis. Sur les conditions de commerce, oui, on accepte des accords commerciaux avec toutes sortes d'autres pays où on est aussi tenu à respecter les règlements d'équité commerciale. Mais c'est comment on peut gouverner et comment on peut arbitrer les disputes. Et les droits que l'Union européenne demande dans cette situation qui est difficile à accepter. Comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, ou je dirais même toujours dans des relations internationales, dans les traités, s'il y a des disputes, ce sont c'est l'arbitrage neutre qui est utilisé. L'Union européenne refuse de l'accepter et veut en effet être juge et jury dans sa propre cause. Et c'est très difficile à l'accepter. Parce que, honnêtement, je dois le dire que je pense que nous n'avons pas beaucoup de confiance maintenant dans les intentions de l'Union européenne.
Est-ce que vous avez plus confiance dans les intentions et les modes d'action de vos propres dirigeants? Le Brexit, ça n'a pas simplement été un vote de défiance envers l'Union européenne, avez-vous dit, Robert Holmes, ni un vote xénophobe ou nationaliste, comme ça a été beaucoup présenté, d'après vous, par les partisans du Remain, ni d'ailleurs peut-être le sentiment que l'Europe n'était plus un continent d'avenir. Le Brexit, c'était d'abord, ou aussi, dites-vous, en 2016, la marque d'une grande confiance dans les institutions nationales. Après 4 ans de tergiversations, 3 sorties repoussées, est-ce que la confiance des Britanniques envers leurs institutions et leurs dirigeants est intacte?
Non, pas du tout. Vous avez raison, tout à fait raison. Je pense que nous nous sommes rendus compte qu'il y a une grande partie de la classe politique, de la haute bourgeoisie, de la bourgeoisie d'affaires, qui donne plus d'importance à l'Union européenne ou à l'appartenance à l'Union qu'aux intérêts nationaux. Et nous avons même vu donc le Parlement demander le droit de diriger la politique de l'État, les tribunaux qui ont changé la loi pour essayer d'empêcher la sortie de l'Union européenne. Et donc c'est certainement le cas que beaucoup de personnes maintenant pensent qu'il faut une réforme assez profonde de l'État, des institutions de l'État, de la Chambre des Lords, de la Cour suprême et de la fonction publique.
Quel chambardement quand même, hein. Qu'est-ce que ce Brexit n'aura pas provoqué au sein de vos frontières? Qu'est-ce qu'il a fait aussi ce Brexit à la classe politique britannique, au bipartisme, aux Tories et au Labour aussi? Est-ce que les partis politiques britanniques ont été considérablement affaiblis dans cette épreuve ou ce défi qu'est le Brexit?
Mais le parti travaille surtout, le parti conservateur, qui est après tout le parti de gouvernement depuis plus d'un siècle, a risqué d'être complètement détruite. Il a saisi l'occasion de se réunir autour de Boris Johnson, mais je ne peux pas cacher le fait que beaucoup de personnes, même dans le parti conservateur, ont peu de confiance dans Boris Johnson et dans le gouvernement. Alors il y a une sorte de méfiance généralisée maintenant dans toute la vie politique, ça c'est sûr. Et donc nous nous sommes rendus compte que sortir de l'Union européenne est extrêmement difficile, beaucoup plus difficile qu'on a supposé au début. Et pour cette raison-là, il me semble que l'Union européenne a été dans un sens affermie, parce que qui d'autre veut essayer cette aventure d'essayer de sortir de l'Union? Et donc je pense que là, les autres pays ou les pays membres qui restent sont dans un sens coincés dans l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas forcément aimée, mais il est accepté parce que les dangers de sortir sont évidents et nous les avons montrés.
On va revenir au mois de janvier 2019 pour montrer comment les dissensions se sont installées au sein de la classe politique britannique, y compris jusque dans la Chambre des communes.
The eyes to the right. Le oui à droite, 202. Le non... Silence. Le oui à droite, 202. Le non à gauche, 432. Donc le non l'emporte. Le non l'emporte. Vote terminé.
Monsieur le Président, la Chambre a parlé, le gouvernement écoutera. Il est clair que la Chambre n'appuie pas cet accord, mais le vote de ce soir ne nous dit rien sur ce qu'elle soutient. Rien sur la façon dont... Rien sur la façon dont, ou même si, elle a l'intention d'honorer la décision que le peuple britannique a prise lors d'un référendum que le Parlement a décidé de tenir. Et les gens, en particulier les citoyens de l'Union européenne qui ont élu domicile ici, et les citoyens britanniques vivant dans l'Union européenne, méritent des éclaircissements sur ces questions dès que possible.
Voilà, là, le Parlement britannique vote à ce moment-là contre le projet d'accord établi, pensé par Theresa May, qui partira par la suite. Si vous pouviez apporter aux auditeurs de France Culture et à Theresa May des éclaircissements sur ce qui s'est joué là, en quels termes les formuleriez-vous?
Mais la Chambre des communes est souvent un peu houleuse, donc. Mais c'est vrai qu'ici c'était quelque chose d'assez inhabituel. Mais en fait, nous avons été dans une fausse position dès le début, dès le référendum de 2016. parce que la classe politique, c'est-à-dire tous les partis politiques, ont décidé de faire voter le peuple dans un référendum parce qu'ils ont cru que le peuple voterait pour rester dans l'Union européenne. Et donc le peuple a mal voté, si vous voulez. Et la plupart des hommes politiques ont décidé que c'était catastrophique et donc il fallait tout faire pour empêcher qu'un Brexit dur, une véritable sortie de l'Union européenne serait empêchée. Et donc nous avons vu Madame May essayer de trouver une sorte de compromis qui était impossible à trouver en fait. Parce que le fait est qu'il faut, à mon avis, il faut être soit dedans, soit dehors. Si on reste moitié dedans, moitié dehors, on est le pire de toutes les situations. Et donc cet essai de Madame May de trouver un juste moyen n'avait pas de chance d'aboutir.
Probablement parce que
les gens qui étaient contre le Brexit voulaient faire revoter le peuple et rester dedans. Les gens qui voulaient sortir de l'Europe ne voulaient pas non plus accepter un compromis.
Probablement parce que Theresa May et consorts voient aussi les bénéfices qu'il y avait à appartenir à l'Union européenne et pas simplement les sacrifices, pour reprendre l'un de vos mots, Robert Holmes, à rester dans ce grand ensemble.
Oui, il y a des avantages, il y a aussi des énormes désavantages. Je pense que je ne sais pas si les Français savent que ce que l'Union européenne leur coûte en termes d'argent, mais une étude allemande l'année dernière a calculé que chaque Français a perdu près de 60 000 euros à cause de son appartenance à l'Union européenne. La plupart des pays de l'Europe n'ont pas gagné économiquement, et parce que le système européen, du point de vue économique, fonctionne mal. Mais pour nous, je pense, ou pour la plupart des gens qui ont voté, c'était plutôt une question politique et démocratique de savoir qui avait le droit de faire d'avoir le dernier mot, si vous voulez. Qui était souverain? Est-ce que c'était l'Union européenne ou est-ce que c'était le peuple britannique? Et très peu de Britanniques. Et là, il y a une différence peut-être avec la plupart des pays européens. On était tout à fait opposés à donner plus de pouvoir à l'Union européenne. Bien que cette augmentation de pouvoir est considérée comme beaucoup de personnes, comme M. Macron, comme absolument nécessaire au fonctionnement de l'Union. Donc nous étions dans une position très difficile et dans un sens une fausse position d'être membre, mais qui ne voulait pas le développement de l'Union de cette façon-là, de cette façon centralisatrice. Et donc probablement tôt ou tard, on serait parti.
Ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, là, vous mettez en avant certaines études qui montrent aussi l'appauvrissement ou non des Français ou d'autres Européens en restant dans l'Union, mais vous dénoncez aussi la place trop importante, compris les experts, hein, dans ce débat qui aurait dû être avant tout pour vous un débat politique, démocratique, et que les experts ont trop influencé aussi les dirigeants et les décisionnaires sur ces questions.
Et Michael Gove, le ministre qui a dénoncé les experts, comme il a dit, les experts qui ont toujours tort, je pense que ce qui a créé la méfiance vis-à-vis des experts, c'était le fait que les experts n'étaient pas neutres, si vous voulez. Vous pouvez dire que je ne le suis pas non plus. Non, ça, c'est sûr, mais je l'avoue. Je ne dis pas que ce que je dis est une simple vérité. Mais beaucoup d'experts se présentent comme ayant la vérité pure. Et en fait, ils sont comme les autres, des partisans dans un débat politique.
Ils l'ont cru en 2016. Ils ont cru que les Britanniques voteraient pour le maintien de l'Union, avez-vous dit il y a quelques minutes, Robert Holmes. C'était ça tout le problème. C'est qu'on a estimé que les Britanniques avaient mal voté, en tout cas n'avaient pas voté ce qu'ils auraient dû voter. Ils l'ont cru en 2016 et il semblerait qu'ils le croient encore. Partisan du Remain, Alastair Campbell, auteur et conseiller, ex-directeur de communication et de la stratégie de Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, était ce matin l'invité de Guillaume Herner dans les matins de France Culture. Écoutez.
on a perdu. Moi, je faisais partie de la campagne pour un deuxième référendum. On a perdu. Il y avait un moment où je croyais qu'on allait gagner. Et moi, je dois vous dire, je suis absolument certain que le deal, la proposition que maintenant Johnson va présenter au peuple et au Parlement britannique, s'il y avait une vote, un deuxième référendum sur ce deal, no deal qu'on a maintenant, je n'ai aucun doute qu'il perdrait. Et c'est pour ça qu'ils ont tant résisté. Je suis d'accord qu'il faut l'accepter, c'est-à-dire qu'il faut vivre avec. Mais quelqu'un comme moi, je ne vais pas changer d'avis, j'espère que ça peut marcher. Mais il ne faut pas oublier les mensonges, il ne faut pas oublier les fausses promesses, il ne faut pas oublier qu'on a fait ce choix nous-mêmes.
Voilà, il dit aussi à l'instant, Alistair Campbell, le monsieur communication de Tony Blair, que si on revotait aujourd'hui, il n'a aucun doute, enfin si la Grande-Bretagne, hein, si les Anglais revotaient aujourd'hui, il n'a aucun doute sur le fait que le Leave perdrait cette fois. Là, on est toujours pour vous dans le storytelling des partisans du Remain, Robert Holmes.
Personne ne sait comment voteraient les gens s'il fallait voter aujourd'hui, mais ça dépendrait. Si on leur demande, est-ce que vous regrettez cette décision? Il y a beaucoup de gens qui disent oui, parce que, à cause des difficultés que ça a causées. Mais si on leur demandait, est-ce que vous voudrez que l'économie britannique soit dirigée par Bruxelles? Est-ce que vous voudrez que les pêches soient dans les mains de l'Union européenne? Est-ce que vous préférez que l'immigration soit illimitée? Je pense que dans ce cas-là, ils voteraient encore une fois pour Leave.
Des deux côtés, comment vous expliquez, Robert Holmes, cette incapacité à terminer l'histoire?
Il faudrait plutôt demander à Alistair Campbell, je crois. Mais disons que pour lui et moi, il y a une différence de vue. Lui, il pense qu'il a dit « nous avons perdu », mais ce qu'il voudrait continuer à avoir, c'est une partie de l'Union européenne sans, disons, il voudrait un Brexit nominal. Il voudrait qu'on reste dans l'union douanière, dans le marché commun. Il voudrait toutes sortes de choses qui semblent l'équivalent d'être membre de l'Union européenne, sauf sans le rôle politique de membre. Pour moi, c'est une, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le pire des mondes. Il faut soit être dedans, soit être dehors. Et dehors veut dire qu'on n'est pas dans l'union douanière, on n'est pas dans le marché unique, et on n'est pas sous le contrôle de la législation européenne. Et alors c'est ça que M. Campbell et les gens qui sont de son avis n'acceptent pas. Et donc ils voudraient à tout prix garder le maximum de l'Union européenne, même après avoir quitté.
Mais ce qui est intéressant, c'est que 4 ans après ce référendum, on a l'impression qu'on est toujours dans la même situation, toujours en train de refaire le même match, à la fois sur la scène européenne, mais aussi en Grande-Bretagne.
Oui, c'est vrai. Dans un sens, on est revenu au point de départ. On aurait pu dire en 2016 que nous voulons tout quitter du système européen et nous sommes prêts à faire du commerce avec l'Europe selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Et si on veut un peu plus que ça, alors il faut maintenant discuter. Et c'est ça l'opposition où nous sommes maintenant. Mais nous avons passé presque, comme vous avez dit, nous avons passé 4 ans à arriver au point de départ. Et c'est parce qu'il y avait cet désaccord au milieu de la classe politique qui ne pouvait pas et qui ne peut, même maintenant, qui a de grandes difficultés à accepter cette décision a été prise. Comme a dit Alistair Campbell, qui a encore cette fantaisie de refaire le référendum et de faire voter le peuple et que le peuple vote cette fois-ci comme il faut.
Alors c'est intéressant parce que 4 ans après, on imagine que les Anglais ne doivent pas si bien vivre ce blocage avec cette incertitude permanente. Mais on peut aussi se dire et voir la face lumineuse de cette pièce que jamais l'Europe n'a été à ce point-là un sujet de conversation en Grande-Bretagne. Alors qu'avant le Brexit, probablement comme en France, de l'Europe, il était assez peu question. Une précision ou une question à vous poser par rapport au moment que nous vivons tous, celui de la pandémie. Est-ce que cette crise sanitaire et les possibles conséquences économiques qu'elle va engendrer, sans penser que ça n'a pas déjà commencé, vont changer la donne pour vous ?
Non, je ne pense pas. Le fait est que les mesures qu'il faut prendre pour combattre l'épidémie n'ont rien à faire avec les règlements de l'Union européenne. Et nous allons faire ce que nous pouvons pour relancer notre économie, comme feront les pays de l'Europe. Ça se ferait de toute façon, membre ou pas de l'Union européenne.
Vous avez longuement travaillé, vous aussi, Robert Thombe, sur les relations passées entre l'île et le continent. Comment la Grande-Bretagne va-t-elle se positionner demain, selon vous ?
Mais nous avons toujours eu des relations assez fluides avec le continent, comme vous le dites. Le continent a toujours été extrêmement important pour la Grande-Bretagne et le restera. Mais nous avons aussi des relations avec d'autres continents qui sont assez importants pour nous. Et je ne sais pas si tous les Français se rendent compte que plus d'Anglais vivent dans d'autres pays anglophones que dans l'Union européenne. Et même plus d'étudiants britanniques vont étudier dans des pays anglophones que dans l'Union européenne. Donc on a des relations et des liens affectifs, économiques, politiques, avec d'autres parties du monde. Et pour nous, je crois que l'Europe n'est pas notre seul continent, si vous voulez.
Oui, d'ailleurs, vous citez Churchill dans vos pages, Churchill s'adressant à De Gaulle en 44. Chaque fois qu'il nous faudra choisir entre l'Europe et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. Mais aujourd'hui, quand même, est-ce que vous pensez qu'il y a pas simplement ce besoin de repli, en tout cas que c'est pas comme tel qu'il faut l'interpréter, mais d'autres rêves de grandeur de la part de la Grande-Bretagne aujourd'hui, peut-être de retrouver aussi cette période du Commonwealth. Puisqu'on parle de Churchill, est-ce qu'il y a un rêve de grandeur perdu pour vous que la Grande-Bretagne souhaiterait retrouver autrement par d'autres alliances ?
Pas vraiment. C'est souvent dit par l'autre côté de l'argument, si vous voulez. Mais en fait, beaucoup de gens qui auraient voulu rester dans l'Union européenne utilisent exactement le même argument. Si l'Angleterre quitte l'Union européenne, nous serons un pays beaucoup moins important. Pour rester un grand pays, il faut rester dans l'Union européenne. Alors, c'est exactement la même pensée que beaucoup de Français, je crois, où l'Union européenne devient le moyen d'être encore important dans le monde. Et donc, pour nous, nous avons fait un autre choix. Et c'est vrai qu'une partie de ce choix, c'est de relancer nos relations avec les pays anglophones.
2021.
Mais de toute façon, ça arrive de toute façon, parce que notre commerce devient de moins en moins européen et de plus en plus mondial. Et ça se fait depuis une vingtaine d'années.
2021, c'est dans quelques jours, l'année 1, donc, du Brexit effectif. Comment vous l'imaginez cette année ? Par quelle grande décision devrait-elle commencer ?
Mais en fait, dans un sens, les grandes décisions sont en Europe. Il faudrait voir comment réagissent les Français si la pêche est en partie fermée aux Français. Est-ce qu'il y aura des violences sur mer? Est-ce qu'il y aura des blocus des ports? Est-ce que l'eurozone va avoir encore une crise financière comme il y a quelques années? Et donc, dans ce cas-là, ça va changer beaucoup le débat en Angleterre. Pour nous, je pense que nous espérons que les choses vont continuer plus ou moins comme normal. Nous espérons peu de changements économiques, peu de difficultés de voyager et de faire du commerce. Et donc j'espère qu'il n'y aura pas de grandes décisions à faire.
Alors, affaire à suivre. Merci beaucoup à vous, Robert Thombe, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, mais non encore traduit en France, sortira en janvier. Cette île souveraine, la Grande-Bretagne, dans et hors de l'Europe. Merci d'avoir conclu avec nous cette semaine européenne. Très bel après-midi à vous.
Merci à vous.
France Culture, il est 13h, presque 22, l'heure de retrouver le rendez-vous de la médiatrice comme un jeudi sur deux. Le rendez-vous de la médiatrice, c'est-à-dire Emmanuelle Dabier. Bonjour Emmanuelle.
Bonjour Olivia.
Avec la directrice de France Culture, Sandrine Trainer. Bonjour Sandrine.
Bonjour Olivia, bonjour Emmanuelle.
Sandrine Trainer, bonjour. Nous allons commencer par une question qui revient régulièrement dans le courrier des auditeurs. Ils veulent une certification des invités qui s'expriment. En d'autres mots, avoir la garantie que le propos diffusé est porté par un interlocuteur dont le profil est correctement établi. Voici un message. Serait-il possible pour les journalistes de vérifier et d'indiquer les liens d'intérêt de leurs intervenants scientifiques et les médecins? C'est courant dans les colloques et cela permet de situer les prises de position des intervenants sans nécessairement les disqualifiés. Sandrine Trainer, lorsqu'il y a soupçon de conflit d'intérêts, notamment avec des laboratoires, évidemment cela sème le trouble dans l'esprit du public. Alors comment présenter un invité avec transparence ?
La question est extrêmement légitime. Je crois que notre travail consiste précisément à ne pas inviter des personnes soupçonnables de conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts supposant que la chose est gardée secrète et que donc elle n'est pas posée comme une donnée que l'on peut directement critiquer et débattre. Donc je dirais que, vous savez, si en fait à France Culture on ne fait pas ce travail, je ne sais pas si c'est de certification. Le terme est peut-être pas approprié, mais en tout cas de vérification des personnes que l'on invite à l'antenne et de présentation de ces personnes-là dans toutes les dimensions qui sont nécessaires pour appréhender la parole. En fait, si on ne faisait pas ça, on se tirerait nous-mêmes une balle dans le pied, puisque d'abord, on est tout à fait conscient qu'on a une responsabilité particulière dans la mesure où, en fait, France Culture apparaît comme une antenne de la certification des gens qui s'y expriment. Et d'autre part, toute notre légitimité repose sur la qualité de l'expertise que l'on propose à nos auditeurs. Donc, je crois que nous faisons ce travail. Sans doute, on n'y réussit pas à 100%.
Mais il est fait. On poursuit avec cette question. Les annonces de mesures sont rarement expliquées sur le fond. Les explications du gouvernement, qui est tenu par ses propres besoins de communication, sont souvent très vagues, donc insuffisantes. Or, nous, citoyens, avons besoin de raisons bien claires pour combattre les inquiétudes infondées et pour nous efforcer de respecter les mesures qui deviennent vraiment lourdes dans certaines situations. Sandrine Trainer, ce travail de décryptage est à l'œuvre sur votre antenne. Faut-il encore l'accroître et est-ce que cela vous paraît possible ?
Écoutez, on peut toujours faire davantage et faire mieux. Je crois que effectivement, comme cet auditeur ou cette auditrice le souligne, nous efforçons de le faire, y compris dans nos journaux. Une information, c'est pas la reprise d'un communiqué gouvernemental. Ça doit être davantage que ça, avec la distance critique et nécessaire et la capacité à expliciter les mesures du gouvernement. Je pense que ça fait partie, pour le coup, vraiment de notre rôle de service public. Et donc, on s'y attelle. C'est pour ça qu'on a développé, par exemple, le fait que dans la matinale du vendredi, chaque vendredi, notre spécialiste scientifique, Nicolas Martin, vient en lieu et place de la question du jour pour reprendre les grands sujets de la semaine et essayer de les éclairer au maximum.
Oui, et puis on peut aussi inviter les auditeurs à consulter votre site qui est quand même très richement fourni en décryptage. Et c'est vrai qu'il complète très bien, le travail fait sur l'antenne. Hier, à l'occasion de la journée de la laïcité, vous avez proposé un dispositif spécial à l'antenne. Et à cette occasion, un auditeur écrit « J'écoute votre invité sur la laïcité et je me pose la question de la diffusion du culte chrétien sur la radio publique le dimanche. N'est-ce pas un pied de nez à la loi de 1905 ? Je parle bien de la messe et du culte protestant de temps en temps et non pas des émissions sur les religions qui sont passionnantes. » Sandrine Trainer, c'est une question que nous avons déjà abordé, mais il semble utile de rappeler que ces émissions religieuses font partie du cahier des charges de Radio France.
Oui, il faut rappeler, et vous avez raison, il faut toujours le réexpliquer, rappeler que ces émissions font partie du cahier des charges de Radio France et également de France Télévisions, c'est-à-dire de l'audiovisuel public de manière générale. Rappeler, et je sais que ça n'est pas simple, que la laïcité, ce n'est pas l'élimination des religions de l'espace public, mais la codification de leur présence dans l'espace public. En effet, il y a des cultes qui choisissent de diffuser le culte pour les auditeurs, d'autres qui choisissent une approche plus culturelle. C'est le cas de Khalem Bencher avec son émission sur le monde musulman. C'est le cas de Marc-Alain Ouaknine sur le monde juif. Mais enfin bon, dans tous les cas, il s'agit bien de répondre à un cahier des charges au fond extrêmement précis.
Eh bien, terminons en citant une lauréate que l'on a pu entendre sur France Culture. Je vous lis son propos. La chose la plus destructrice, c'est de devoir être responsable de ce à quoi on a consenti. Cette formule très pertinente est signée Lola Lafont, et vous vouliez dire quelques mots à son sujet, Sandrine Trainer.
Oui, puisque c'est une information que Olivia Gesbert a été amenée à donner à nos auditeurs et nos auditrices il y a juste un instant, au terme d'un parcours toujours exaltant qui a engagé 5 romancières et romanciers sélectionnés par les producteurs et les journalistes de France Culture et de Télérama dans tout le territoire grâce à des rencontres virtuelles, puisque cette année nous n'avons pas pu tenir le prix roman des étudiants habituellement, mais du coup on en a décuplé grâce aux rencontres virtuelles l'impact. Lola Lafont est effectivement notre lauréate de cette année pour un roman publié chez Actes Sud qui s'intitule Chaviré. Écoutez, je boude pas mon plaisir, j'aimais beaucoup les 5 livres, j'aime beaucoup celui de Lola Lafont qui avait déjà été sélectionné par notre jury. C'est une très bonne auteure. Elle est à la fois une véritable romancière, c'est en même temps aussi une femme extrêmement astucieuse, comme vous le montrez à travers cette citation. Et je voudrais remercier ici à la fois le ministère de l'Enseignement supérieur qui soutient ce prix, et également les universités qui se sont engagées, les auteurs, les éditeurs. C'est un grand moment, vous vous rendez compte qu'il y avait 1500 jurés cette année. 1500 jurés, on est peut-être le prix le plus important en termes de participation.
Merci Sandrine Trainer, merci à vous.
Merci Emmanuel Davier. Lola Lafont sera demain l'invité des matins de France Culture au micro de Guillaume Erner. Tous les invités de notre semaine Europe à la grande table sont à retrouver en podcast à partir de la toute nouvelle et toute belle appli Radio France ou sur franceculture.fr. Demain, c'est une grande table critique qui vous attend avec Lucille Como. Je vous dis rendez-vous quant à moi samedi à 17h pour un nouveau numéro d'En français dans le texte et lundi à partir de midi pour une grande table qui ouvrira sa semaine avec Jane Birkin et Étienne Dao.